Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je prends la parole pour animer cette table ronde. Moi, je m'appelle Sophia et je suis aussi bénévole au planning familial à l'antenne de Millau. Je travaille aussi à Radio Larzac. Je vous remercie d'être là pour le vernissage de cette exposition qui est un peu l'ouverture d'un mois de mars, comme l'a présenté Céline et comme ça a été dit auparavant, consacrée aux droits des femmes. Il y a des mobilisations et des actions organisées par pas mal d'associations millavoises, dont certaines sont présentes ce soir. Et je remercie Céline Gelton-Thomaset, donc d'Aporia Culture, pour l'organisation de cette exposition de photos de Christian, comme ça a été dit, mais aussi pour la coordination entre les différentes associations qui a permis la mise en place de ce programme commun qui permet voilà, une bonne communication et visibilité. Donc merci beaucoup Céline. Et bien sûr, je remercie aussi la ville de Millau pour le soutien logistique et financier à la mise en place de ce programme. Et quant à notre table ronde, on a décidé de l'axer autour du sujet des femmes et de l'emploi. Voilà, c'est un sujet qui fait écho avec les missions portées par les structures qui sont présentes ce soir et qui ont participé au projet de l'exposition. Et donc, pour en parler, je représente les invités. Nous sommes toujours avec Nadine Boisson du Jardin du Chéran. Nous sommes avec Véronique Ponce et Julie Véter de l'association Trait d'Union. Et nous sommes avec Fatima Amroui de l'association Myriade. Merci d'être là. Et donc pour commencer, j'aimerais citer une donnée au niveau international toute récente. Selon un rapport de la Banque mondiale de février 2026, un accès pleinement égalitaire au marché du travail entre les hommes et les femmes n'est une réalité dans aucun pays de la planète. C'est un peu triste. Seuls 4% des femmes vivent dans un pays qui propose des conditions proches de l'égalité en ce qui concerne l'accès au travail. Et pour favoriser l'accès des femmes à certains métiers, le rapport cite comme solution qui fonctionne le fait d'imposer un salaire égal à tâches équivalentes et de créer de congés parentaux qui sont voilà, les solutions qui marchent mieux. Et si on transpose cette réalité et ces données au niveau local, voilà, je voulais m'adresser un peu à l'ensemble de nos invités pour commencer. Quels sont les freins à l'emploi que rencontrent les femmes que vous accompagnez dans vos structures respectives? Si vous pouvez faire un petit coup de tour de table, je te laisse commencer Nadine.
Bah écoutez, parmi les freins, c'est vrai que bon, nous, on accueille souvent des femmes avec enfants. Donc ça fait souvent partie des freins importants, la garde d'enfants. Alors, bien sûr qu'il y a des solutions de garde d'enfants aujourd'hui, hein, c'est évident. Mais clairement, nous, on a fréquemment des problématiques liées aux horaires de travail. Nous, par exemple, on commence extrêmement tôt, notamment l'été. Et donc, ça veut dire démarrage à 7h30. Aujourd'hui, il y a peu de structures qui accueillent un enfant à 7h30 du matin. Bon, c'est quand même compliqué aujourd'hui à ce niveau-là. Donc, il y a des problématiques parfois toutes bêtes de ce style, hein, très clairement. Parfois, il y a des problématiques aussi de mobilité. On l'a évoqué encore l'autre jour avec la mairie. Quand il faut aller au centre de loisirs, amener son enfant avant d'aller travailler, le centre de loisirs à l'autre bout de Millau, ben, dès qu'on a des problèmes de mobilité, c'est compliqué. Donc voilà, parfois, il va y avoir des facteurs toutes bêtes d'organisation matérielle qui sont des réels freins pour les femmes aussi au niveau du travail. Donc nous, on les vit avec elles dans le travail au jardin et on essaie de s'adapter au minimum, mais on est aussi là pour les préparer à la suite et à trouver des solutions pour après quand elles sortent du jardin, quoi. Voilà. C'est juste des exemples, hein, mais d'autres facteurs qui peuvent être importants aussi, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a certains métiers qui sont très orientés sur le féminin. Oui, ben forcément, nettoyer des chambres, etc., cuisine, tout ça, tout de suite, on a cette image-là. Bon, nous, aujourd'hui, on a y compris des femmes qui font du tracteur hein, au jardin. Hein, donc, et on les forme au tracteur au même titre que les hommes. Donc, on essaie aussi de casser ces dynamiques-là. Mais on s'aperçoit que dans le domaine de l'emploi, c'est parfois compliqué. Je prends un exemple tout bête. On avait une jeune femme, il y a quelques années, qui rêvait de faire de l'espace vert. Elle n'a jamais eu accès à aucun emploi en espace vert. Et elle a été obligée de se réorienter parce qu'en fait, il n'y avait pas une seule structure qui voulait l'accueillir en espace vert. Donc c'est vrai qu'il y a encore aussi beaucoup besoin de casser les codes. Et c'est vrai que nous, on a souvent des femmes un peu fragiles quand même aussi, qui ont perdu parfois la confiance en elles. Et alors quand en plus, elles doivent se heurter à des images, à des conceptions, ben, elles ont du mal parfois à briser un peu les codes et à briser les images qu'il peut y avoir. Voilà quelques exemples de freins qu'on peut évoquer.
Merci. Vous voulez prendre la suite, Fatima?
Je veux bien. Alors à Myriade, c'est à peu près la même chose. On a ce genre de problème, mais on a un problème particulier, c'est que nos femmes, souvent elles sont étrangères. Donc il y a le problème de la langue, souvent il y a le problème des papiers. Je vais vous donner un exemple. J'ai une jeune femme qui est brésilienne, moitié italienne, moitié brésilienne, qui a un niveau très élevé, parce que la plupart, il y en a beaucoup qui ont un certain niveau, qui ont vraiment un bon niveau, et qui parlent plusieurs langues, dont l'anglais, etc., mais qui maîtrisent très mal le français. Elle trouve que le français, c'est quand même un peu dur. Donc cette jeune femme, avec son niveau, a eu énormément de difficultés à trouver du travail. Aujourd'hui, elle est caissière, alors qu'elle est en réalité expert comptable. Voilà, hein. Ou alors j'ai des personnes qui sont même universitaires, hein, qui ont des diplômes universitaires et qui ont du mal à trouver du travail aussi.
À Tridunion, en fait, nous on héberge les femmes victimes de violences aussi. Donc on est assez discret quand même quant au lieu. Bon, c'est plus ou moins, on le sait plus ou moins, mais bon, on est assez discret. Là, il y a tout à faire, quoi. Il y a tout à faire, donc, mais souvent, on dit, au départ, elles sont en état de choc, donc on les oriente vers un soutien ou un soutien psychologique. Ou on avait monté un groupe de parole pour les femmes avec une thérapeute. Je l'ai co-animée pendant 5 ans, et là, on voit la transformation, en fait. On voit les transformations, les femmes qui se reconstruisent. L'expo a été très bénéfique pour certaines. Il y en a une qui a dit, ben moi j'ai plus besoin de mettre ma photo, j'ai plus besoin, j'ai fait le tour, je suis passée à autre chose, quoi, en fait. Et souvent pour trouver du travail, d'abord avant de trouver du travail, il faut qu'elle qu'elle se pose, quoi, qu'elle se pose, qu'elle, et malheureusement bien souvent c'est un peu négatif des fois, parce qu'elle retourne vers le domicile conjugal assez violent. Mais il faut plusieurs passages, plusieurs allers-retours pour qu'il y ait un déclic ou quelque chose qui fait qu'elles vont, elles vont se reconstruire.
Je vais vous présenter un peu l'association Trait d'Union, ce qu'on fait pour les femmes, et on a aussi des hommes. C'est une association agréée par la préfecture de l'Aveyron dans le cadre de la lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. À Trait d'Union, on dispose également d'un accueil de jour pour les femmes victimes de violences conjugales. Cet accueil de jour est un lieu convivial, ouvert 7 jours sur 7, de 9h à midi, de 14h à 17h30, du lundi au vendredi, et de 14h à 17h30, les samedis et dimanches. L'identification des freins vers l'emploi, ce que disait ma collègue, permet d'adapter notre accompagnement des publics. Ces freins, donc, qui peuvent être d'ordre autant psychologique que l'isolement social, l'administratif, très peu sont en connaissance de leurs droits, des problèmes de santé, ça rejoint aussi le jardin de Chéran, les logistiques de garde d'enfants, la mobilité réduite, pas de véhicule, pas de permis. Même si on leur met à disposition des vélos, ben là encore la semaine dernière, on a appris à une jeune de 21 ans à faire du vélo. Voilà, c'est là aussi où on se rend compte que ben, tout le monde n'a pas la chance d'apprendre à faire les choses tout petit comme nous, on a pu y accéder sans réfléchir. Et nos leviers d'action sont les suivants: les ateliers de remobilisation d'estime de soi autour d'un groupe de parole, et surtout le travail en réseau avec la CADA, Myriad, la PMI, la police, tout ce qui est au niveau tribunaux, la justice. Donc voilà, on arrive à avancer grâce à l'union avec tout le monde.
Du coup, je rebondis sur ce que vous avez dit. Est-ce que, en particulier pour les femmes qui sont plus en danger et victimes de violences, est-ce que vous avez un parcours pour les aider à reprendre confiance en elles et puis à retrouver un emploi si elles n'ont pas ?
Souvent, c'est d'abord la mise à l'abri. Et puis, en fait, après, avec les éducateurs, on voit si elles ont, par exemple, s'il faut séparer les comptes. Enfin, c'est l'administratif d'abord. Et petit à petit, refaire un CV, postuler. Et effectivement, des fois, il n'y a pas le permis. Voilà. Il y en a qui ont passé le permis, il y en a qui reprennent un travail, il y en a qui travaillent au jardin du Chéran, et ça c'est bien parce que c'est juste à côté. Donc, ouais, elles y vont à pied. Après, ça se fait étape par étape, quoi, vraiment. Ouais, la confiance en soi, surtout, ouais.
Et justement, vous avez aussi parlé de l'accompagnement de personnes qui sortent de la prostitution, non choisie notamment. Alors nous, on le sait, mais vous m'aviez parlé de deux programmes, le PSP et le PSI. Est-ce que vous pouvez peut-être présenter en quelques mots ces dispositifs ?
majorité des femmes qui sont orientées par une association à Toulouse surtout, qui sont sorties de la prostitution, mais il ne faut pas qu'elles y retournent, quoi. Donc elles sont délocalisées carrément, elles nous sont orientées. Bien souvent, c'est des réseaux, hein, des réseaux étrangers, et on travaille avec elles. Donc elles ont un suivi avec la police, la préfecture. Le plus difficile, c'est que des fois, on doit amener des preuves. Donc ça, c'est extrêmement compliqué. Je sais qu'il y a des récits qui ont été très, très difficiles. Et c'est un peu délicat, quoi, comme sujet, parce qu'on ne peut pas... faut respecter la personne, il y a le secret, voilà. Donc, ensuite, bon, une fois que la préfecture... parce que bien souvent, ces personnes, elles n'ont pas de droit en France. Donc, une fois que la préfecture leur accorde le droit, là, bah, ça va un peu mieux pour elles. On a eu deux femmes qui ont fait ce parcours et qui ont réussi à trouver un emploi. Qui ont réussi, y en a une qui a deux enfants, qui a passé son permis et qui a un emploi pas loin d'ici. Je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, ouais, ça fait plaisir.
Oui, merci. Et vous avez cité des difficultés, des éléments qu'on avait effectivement réfléchi avec Céline en préparant cette table ronde. Et je voulais revenir vers vous, Fatima, ainsi que concerne l'accueil et l'accompagnement des femmes, mais pas seulement des femmes étrangères. On sait l'ampleur et la longueur des démarches administratives pour obtenir, par exemple, son permis de séjour. Et pendant ces démarches, les personnes n'ont pas le droit de travailler. Est-ce que, du coup, elles sont plus exposées à des conditions de travail au black, par exemple, ou à des situations d'exploitation? Quelle est l'ampleur de ce phénomène localement par rapport à votre expérience?
Alors, mon expérience, elle est petite. Ça fait pas longtemps que je suis là, que je suis à Myriad. Mais oui, mais autant pour les hommes, hein, qui sont aussi exploités. Donc oui, il y a de l'exploitation. Bon, la plupart des femmes se retrouvent à faire des ménages. Ou garder des enfants, savoir comment elles sont payées, ça je ne peux pas trop vous dire. Les hommes, c'est pareil, hein, ils se retrouvent dans des professions difficiles où ils sont couvreurs, par exemple, ou beaucoup travaillent, je peux me permettre, dans la fibre aussi. Et je sais que, par exemple, de grosses sociétés, pour éviter les contrôles, même de grosses sociétés, hein, pour éviter les contrôles, les déplacent régulièrement. Donc c'est assez difficile quand même de se retrouver face à ces personnes quand on a la chance d'avoir eu un métier qu'on a aimé. Pour moi c'est difficile, hein, j'ose le dire. Et je les trouve très courageuses et je les trouve très courageux parfois, hein, parce qu'il faut s'accrocher. Hein, parce que des fois ils viennent de loin avec un fardeau sur les épaules très lourd. Et se retrouver dans ces situations-là, c'est pas évident.
Tu en as parlé un petit peu, Nadine, de ce côté genré du métier. On sait que voilà, il y a des métiers qui restent très genrés. Est-ce que tu veux revenir, enfin, vous voulez revenir un petit peu sur ces discriminations à l'embauche que peuvent rencontrer les femmes, notamment par exemple dans le maraîchage? Est-ce que c'est quelque chose, voilà, comme vous dites, qui peut briser la confiance en elles aussi?
Oui, bon, alors, en l'occurrence, je pense que le maraîchage est quand même une activité assez ouverte. En l'occurrence, il y a beaucoup de femmes maraîchères, hein, aujourd'hui, donc ça reste quand même une activité assez ouverte. Mais c'est vrai qu'effectivement, même dans certains métiers agricoles, ça peut être compliqué. Hein. Alors, il y a des métiers agricoles qui commencent à se féminiser un petit peu, notamment tout ce qui est soins aux animaux ou autres. Mais par contre, des métiers agricoles liés au tracteur ou autres, ça sera quand même beaucoup plus difficile de faire croire à un agriculteur que si, elle sait monter sur le tracteur et elle va pouvoir faire plein de choses. Donc c'est vrai qu'il y a quand même encore des difficultés là-dessus. Et je pense qu'il y a aussi un problème, c'est que souvent elles vont même pas s'autoriser en fait. C'est la difficulté, c'est aussi de s'autoriser à explorer de nouveaux champs d'activité et tout ça, qui sont moins liés. Alors en plus, bon, nous on accueille beaucoup de gens d'origine étrangère aussi, et alors là les représentations sont encore plus fortes, c'est-à-dire que c'est rare qu'on va avoir quelqu'un d'origine étrangère qui va oser aller sur le tracteur par exemple. Ça paraît tout bête, mais elles vont plutôt avoir facilement tendance à se diriger vers tel ou tel type de métier. Nous on a souvent des gens, alors c'est extraordinaire, hein, parce qu'on a des repas, je vous dis pas, hein, on a tout type de repas possible, mais souvent elles vont en cuisine, nous, au jardin et tout ça, où elles font ces activités-là et elles osent moins aller vers autre chose. Donc c'est vrai que c'est la difficulté aussi, c'est que c'est pas seulement parce que le monde du travail est assez peu accueillant, c'est aussi parce qu'il faut casser des codes, y compris dans la personne, quoi, voilà. Et ça, c'est ça qui est pas toujours évident, en fait.
Et justement, une question aussi pour Fatima. Quand on parle du parcours justement des personnes étrangères, notamment des demandeurs d'asile, est-ce que vous avez développé des activités liés à l'insertion sociale pour les aider justement à sortir un petit peu des métiers cachés, on va dire. Est-ce que vous pouvez présenter peut-être les différentes activités ?
Donc, la priorité, c'est de leur apprendre le français déjà. On a les cours de FLE. Donc, je donnais des cours de FLE et j'en donne toujours. Et là, on va mettre en place aussi tout ce qui est éducation civique, puisque pour avoir les papiers, il faut passer des examens qui sont très compliqués. Ça devient de plus en plus compliqué pour eux, où on demande quand même un certain niveau. Hein, les questions, je pense que beaucoup de Français n'arriveraient pas à les passer, à mon avis. Oui, je pense que beaucoup de Français n'y arriveraient pas. On va les préparer, on va commencer les cours d'éducation civique dans 15 jours. Je vais avoir l'honneur de les faire. Ça va être la laïcité, les valeurs de la France, etc., l'histoire, et j'en passe. Et essayer de leur redonner confiance. L'important, c'est de leur donner confiance et de leur donner envie, comme vous disiez, donc de casser les codes, de se battre peut-être contre beaucoup de préjugés, mais aussi une culture parfois qui est lourde à porter, ou des coutumes qui sont ancrées et dont on a du mal à les... C'est très difficile de leur demander de regarder, de détourner un peu le regard et de se déplacer un peu, de changer un petit peu. Voilà. Et on a cela dans toutes les communautés, dans toutes les ethnies. Puis je voudrais dire un mot aussi sur les femmes, par exemple, des légionnaires. On a beaucoup de femmes de légionnaires pour qui c'est très difficile aussi, hein, parce qu'elles se retrouvent souvent, je ne sais pas si vous le savez, mais la Légion étrangère ne reconnaît pas les femmes de leurs soldats. Donc souvent, elles se retrouvent seules à Millau, parfois avec des enfants. Bon, elles se battent quand même, elles sont dans l'illégalité, parce que souvent, elles n'ont pas de papier. Donc, c'est assez difficile. Mais il y a le poids, je vous rejoins, donc de la culture, de la communauté. Et parfois, moi, j'ai travaillé aussi un peu dans le même style quand j'étais beaucoup plus jeune, où on faisait face aux violences des femmes. Et on avait beau les récupérer, souvent, elles retournaient, ou alors elles retrouvaient quelqu'un qui c'est exactement le même. Voilà, donc on avait ces difficultés. Et c'est vrai que pour nos femmes, à Myriad, parfois, ça demande beaucoup, beaucoup de patience. De leur part et de notre part aussi.
Et oui. Peut-être pour compléter ce que dit Fatima, nous pensons aussi qu'au travers des activités que l'on propose, enfin, on espère que se jouent aussi des actions de sororité. Donc c'est pour ça qu'on met en place justement des temps où les femmes se retrouvent entre elles, où elles peuvent parler, discuter, se rencontrer, tout simplement parce que la première chose quand elles passent la porte de Myriad, la première chose qu'elles me disent, c'est qu'elles sont isolées en fait. Et donc l'idée, c'est vraiment retrouver un semblant de vie sociale, et après, si possible, commencer à s'intégrer. À s'intégrer tout doucement, du moins nous essayons de favoriser leur intégration. Donc ça passe, comme l'a dit Fatima, par nos ateliers, par les temps que l'on propose. Mais il y a aussi toutes les actions en partenariat que l'on mène, justement dans l'idée aussi d'informer, de sensibiliser, d'ouvrir aussi les enfin, je vais parler des femmes, mais parce qu'elles sont majoritaires à Myriad, mais aussi quelques hommes qui poussent notre porte. Donc l'idée, c'est au travers de la cuisine, du jardin, des temps avec des partenaires comme le planning familial, le CIDFF ou même Relais VIH, c'est vraiment donner l'information, ouvrir, favoriser l'aller vers. Donc il y a aussi tous les autres partenaires justement pour pouvoir mieux s'ancrer dans son territoire. Je pense à la maison de ma région, qui est un partenaire important. Et la plus grande difficulté aussi, c'est pouvoir se déplacer sur le territoire. Donc là, c'est un gros problème où on essaye avec les partenaires de favoriser justement le déplacement des personnes sur le territoire. Mais c'est un vaste problème.
Donc on a parlé effectivement des différents freins que vous pouvez constater. Effectivement, la mobilité, la garde d'enfants... l'apprentissage du français, les certaines bases qui vont être à la fois les valeurs de la République ou l'apprentissage du vélo, effectivement. Peut-être que vous, ayant constaté tout ça, est-ce que vous avez des solutions ou des idées justement qui pourraient subvenir à ça, mais qui n'existent pas encore, par exemple ? Comme ça, on pourra y travailler peut-être dans les prochaines années.
Alors, j'ai taquiné la mère hier matin sur le sujet, donc j'ai déjà lancé mes perches. Donc après, j'ai bien compris que c'était pas si simple que ça, n'est-ce pas ? Hein, on est bien d'accord. Non, mais c'est vrai que ce qu'elle relevait hier, et je trouve que c'est assez juste, c'est que il faut aussi à chaque fois qu'on fasse que la parole, elle soit portée de toutes ces personnes. Je prends un exemple très concret. On a une jeune femme là en ce moment qui est très embêtée parce qu'elle peut pas venir au travailler le mercredi au jardin parce qu'en fait elle a pas de moyen d'aller jusqu'au centre de loisirs amener sa petite fille. Le reste du temps, elle est scolarisée, mais là, elle peut pas. Et en fait, ce qu'il faudrait qu'on arrive toujours à faire, c'est arriver à faire remonter ces paroles-là. Parce qu'en plus, c'est pas des gens qui vont, je sais pas comment dire, qui vont râler, si j'ose dire, en disant, mais c'est pas normal, pourquoi il n'y a pas de sous-service? Parce que l'été, par exemple, il y a un service qui amène un bus je ne sais pas exactement de quel point, du Mandat Rouge jusqu'au centre de loisirs. Mais ça n'existe que l'été. Et alors, c'est vrai que, pardon? Et c'est pas très vieux en plus, oui. Mais c'est vrai qu'en fait, on se rend compte que il faudrait qu'on arrive aussi à accompagner ces personnes, à oser dire et à faire valoir leurs paroles de manière à ce que ça puisse remonter, que ça puisse être connu un peu plus des autorités. Après, il y a toujours des limites aussi. Après, moi j'allais dire pour sortir de tout, quand on parle d'isolement, de lien social et tout ça, de gens qui sortent, nous on a y compris eu des gens sortis qui étaient dans le dispositif sortis de prostitution. Moi je vais dire une chose toute bête, mais c'est que je pense que le travail déjà, c'est une des premières solutions. C'est franchement, parce que nous on a vu des gens qui ont tellement évolué au travers du passage qu'ils ont fait au jardin, etc. Pas parce que c'est le jardin, mais parce qu'à un moment donné, on est dans un collectif, on est ensemble, on a un projet, on voit qu'on respecte le projet qu'on nous propose, qu'on a envie de mener à bien. Et en fait, les gens, ces personnes-là, on les voit tellement évoluer, c'est formidable quoi, de les voir évoluer. Et je pense que tout cet axe travail, mais dans un contexte aussi bienveillant quand même, c'est-à-dire que c'est vraiment important aussi pour accompagner les personnes. Alors moi, je rajouterais un point aussi là-dessus, c'est que nous, on est très très attentifs aussi au niveau du travail à ce qu'il n'y ait pas de dérapage. C'est-à-dire que je donne un exemple tout bête. Nous, quand il y a des salariés qui, parfois, c'est un peu les blagues de comptoir, quoi.
Je fais partie de l'association INVT, Innovation Véhicule Doux. Et donc, vous parliez de la mobilité, des femmes qui ne savent pas faire de vélo. Alors, je vous donne une info très précise. Il y a une remise en selle qui aura lieu au mois d'avril de samedi après-midi, de le 11 avril, le 28 avril. Remise en selle, c'est redonner confiance à des personnes qui n'ont pas confiance en vélo, voilà, pour se déplacer en ville, voire apprendre aussi à faire du vélo. Et donc, vous avez dit... que vous aidiez avec le trait d'union à faire passer le permis de conduire pour leur donner une autonomie, ce qui est bien, mais on avait fait une action avec Complain pour l'emploi, et c'était un peu dans le même cas de figure, leur donner la possibilité de se déplacer en voiture, passer le permis de conduire. On a réfléchi, et c'est beaucoup de frustration, déjà pour réussir le code, le permis, le code et le permis, et puis ensuite l'acquisition d'une voiture, et puis l'entretien, et puis mettre de l'essence. C'est des gens souvent qui n'ont pas confiance en eux. L'idée de se promener en vélo, ils sont un peu dévalorisés, c'est nul, mais voilà, on pourrait changer cette image en valorisant, en disant, oui, vous êtes au contraire... Dans la mouvance actuelle du déplacement. Alors c'est vrai en ville pour aller au Jardin du Chéron, mais c'est pas vrai pour aller à Rodez. Merci. C'est un bon exemple. Voilà.
Les freins pour l'emploi, c'est nous déjà, c'est les accueillir, reprendre confiance en eux. Quand ils arrivent, même si pour nous c'est simple, pour eux le Jardin du Chéron c'est très très loin par exemple. Donc c'est d'abord revoir confiance en elles et en eux, même, parce que les garçons c'est pareil, voir qu'ils peuvent être respectés en tant qu'individus, voir que leur vécu, les images qu'ils ont eues avant d'arriver, tout ça, ça appartient au passé, les bruits, tout, qu'ils aient plus peur de... et c'est hyper important, voilà. La confiance en soi, et après c'est vrai qu'une fois qu'ils ont fait le chemin de la confiance en soi, le fait de trouver un travail permet vraiment l'aboutissement pour eux de se rendre compte qu'ils sont quelque chose. C'est ils ont été quelque chose à nos yeux, mais finalement, nous, on est les éducateurs, les animateurs, donc au bout d'un moment, ça devient presque normal, alors que un employeur, c'est encore quelqu'un d'autre qui les accepte comme ils sont et qui leur dit en plus qu'ils font du très bon travail. Et souvent, ce sont des très bons employés qui sont plus que motivés. Donc voilà, et eux, le soir quand ils rentrent, cette fierté, elle se voit jusqu'au bout des oreilles.
Moi, ce que je vais dire, c'est que oui, en effet, avoir confiance en soi, mais c'est surtout de trouver cette confiance, parce qu'il y a tellement eu de problèmes derrière que apprendre à s'aimer, apprendre à s'accepter, c'est très difficile. Savoir dire non aussi, c'est bon, mais ça, beaucoup de gens ne savent pas dire non. Savoir négocier aussi, c'est difficile parce que des fois on les voit venir. Hein, par exemple, là, j'ai une jeune femme qui essayait d'acheter une voiture, qui a le permis. Il la voyait venir, donc il a fallu que j'y aille. Et puis, quand j'y allais, sans elle, hein, c'était plus le même. Là, on pouvait négocier. Donc, apprendre tout ça, se relever, se redresser, oser regarder l'autre, ne pas avoir peur, ne pas avoir honte. Parfois, il y a un travail très, très long et parfois, ce n'est pas évident. C'est évident, pour nous, c'est peut-être facile, mais pour eux, la résilience, parfois, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas. Quoi d'autre ? Apprendre à faire du vélo, oui, peut-être que je vais venir vous voir parce que moi je ne sais pas en faire. J'ai pas appris, hein. Voilà, j'ai pas appris. Moi, j'ai eu des parents qui m'ont pas spécialement aidée. Je suis une enfant d'émigrée, donc j'ai connu un peu ça, mais je suis très résiliente et savoir dire non, je le savais très tôt, donc ça va. Mais j'ai pas appris à faire de vélo.
Faire du vélo à la personne qui ne savait pas faire du vélo. Ben, tous les hébergés se sont mis au jeu et prêtés au jeu. Donc au début, il y en avait, ils regardaient de l'air de dire « mais elle se moque de vous en fait, elle a 21 ans, elle sait très bien faire du vélo ». Non, elle ne sait pas faire du vélo. Là où elle arrive, elle n'avait pas de vélo. Elle ne jouait pas avec ça dans la rue. Et donc voilà, bref. Donc du coup, une fois qu'ils ont compris que ce n'était pas du faux-semblant, ils se sont mis à tenir la selle à tour de rôle, ils se sont mis à courir à tour de rôle à côté. Et tout le monde, quand elle arrivait à faire sa première ligne droite, c'était digne d'un marathon, comme si elle venait de faire les 100 km. Mais tout le monde, on était heureux, c'est se réjouir parce qu'il y a quelqu'un qui arrive à faire du vélo. Et même elle, elle est en plus avec sa maman, donc sa maman voir sa fille y arriver, c'est un instant magique et c'est des moments qui nous paraissent très simples. Mais qui sont exceptionnels à vivre, vraiment.
Merci beaucoup et c'est très émouvant ce que vous venez de raconter. J'ai l'impression d'être avec vous quand vous voyez cette femme apprendre à faire du vélo. On arrive vraiment à la conclusion et vous en avez parlé toutes de cette importance de se sentir utile via le travail et du coup de retrouver un rôle actif dans la société via l'emploi. Et donc, pour conclure, si vous avez envie, on aimerait vous poser une question un peu plus personnelle. Voilà, on est des femmes autour de la table. Pour vous, qu'est-ce que le travail a représenté, le travail que vous exercez ou que vous avez exercé par le passé dans la construction de votre identité et de votre statut social aussi? Est-ce que vous avez envie d'en parler ou peut-être de raconter d'autres expériences positives?
Bon, alors on va dire en rigolant, outre beaucoup de temps. Beaucoup de temps, le travail. Non, je crois que, en particulier avec le métier que je fais aujourd'hui, c'est une réalisation de mes valeurs, surtout. C'est un lieu pour réaliser et mettre en œuvre les valeurs auxquelles je tiens. Et quotidiennement, j'ai le sentiment de le faire. Donc, c'est une manière d'aller jusqu'au bout de la réalisation de mes valeurs.
Eh bien, moi, j'ai beaucoup aimé mon métier. J'ai été infirmière pendant 24 ans. Ensuite, j'ai fait mon école des cadres et j'ai passé mon master, donc j'ai été cadre. J'ai beaucoup aimé aussi. C'était un peu plus difficile quand même. Surtout, j'aime bien les expériences. Et puis, je fais partie des gens qui se disent, tous les 4 ans, il faut changer un petit peu parce que après, quand je suis habituée, j'ai besoin de changer régulièrement. En tant qu'infirmière, j'étais en chirurgie, donc j'étais instrumentiste en bloc opératoire. Bon, ça m'a permis de voir beaucoup de choses, et puis même de travailler à l'étranger, c'était fantastique. En tant que cadre, j'ai même poussé l'expérimentation, bien qu'étant dans des blocs opératoires où c'est très cadré, à me retrouver un jour, on m'a proposé un poste de cadre en psychiatrie. Je sais qu'il y a des problèmes en psychiatrie à Surbillon, j'en ai entendu parler. J'avoue que quand je suis arrivée en psychiatrie, c'était la quatrième dimension. Pas les patients, hein, parce que les patients, eux, ils savent qu'ils sont malades. Je n'ai jamais eu de problème avec les patients. Mais j'ai eu des problèmes avec le personnel. Et je vais vous faire rire parce que celle que j'ai remplacée, elle est partie en dépression au bout de 6 mois. Moi, je suis restée 4 ans et ce sont eux qui sont partis en dépression.
Ça fait 16 ans, je réfléchis, ça fait 16 ans que je travaille à Trait d'Union. Et je me dis, waouh, j'en ai vu passer. J'ai vu passer beaucoup de monde, beaucoup de femmes. Ben, j'ai appris beaucoup auprès d'elles, hein, sur leur force, sur plein de choses, en fait. Tellement que j'ai du mal à les dire, mais c'est très riche. Et là, en ce moment, je travaille, on a une psychologue qui vient là, qui est dépêchée par Sainte-Marie. Et on fait, moi j'ai eu une première carrière de graphiste. Donc, avec cette première carrière, j'arrive à faire des petits ateliers au niveau expression, peinture, etc. Et là, avec cette psychologue, on a organisé, dans le cadre de la journée pour la santé mentale, un mur des émotions. Donc, on leur a fait faire de quoi s'exprimer avec de la couleur et... pour hommes et pour femmes, hein, c'était ouvert. Hein. Et c'était une expérience que j'ai beaucoup aimée, donc je pense que je continuerai. Ce genre de choses, ça me fait avancer, quoi. Voilà, ça change du quotidien.
Alors, ben, moi, j'ai été aide-soignante pendant 17 ans. Et puis, il y a 15 jours, c'est tout frais, j'ai fait un virage à 360. J'ai travaillé pendant 17 ans, la plupart du temps en EHPAD, et à la fin, j'ai fini mes années en réanimation et urgence, où je me régalais parce qu'il y avait plein de soins techniques, mais il y avait plus ce côté humain que là, à Trait d'Union, on peut retrouver. Je pense que si tu es vrai avec la personne, elle te le rend au quintuple, même si elle a rien. J'ai aussi la chance d'être bénévole à la Croix-Rouge, de faire les maraudes. Et pareil, c'est des leçons de vie parce que c'est des gens qui vivent à la rue, tu leur proposes du pain. Non, là il m'en reste une tranche, si je le prends ça va durcir, je préfère que ça soit quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est des métiers où tu donnes de toi, où il te faut donner de toi, mais où ils te le rendent au quintuple. Et je pense que même si c'est tout frais, j'ai fait le bon choix de quitter le monde... de l'hôpital.
Eh bien, merci beaucoup à toutes à nouveau. Donc, je rappelle Nadine Boisson du Jardin du Chéran, Véronique Ponce et Julie Vetter de l'association Trait d'Union et Fatima Amroui de l'association Myriade. Merci beaucoup à Céline Gelton-Thomaset de Aporia Culture pour cette exposition, pour l'organisation de cette soirée et pour la coordination générale de ce mois consacré aux droits des femmes. Je rappelle que le programme est disponible sur mio.fr et sur aporaculture.com. Merci encore une fois à la ville de Mio pour le soutien. Si vous avez des questions, bien sûr, c'est possible.
Je m'excuse, c'est juste à la fin. Moi, je suis avec Myriade. Et j'aime beaucoup cette initiative à chaque fois, et la seule chose qui sade un peu de la mer, c'est vous faites beaucoup, merci, et qu'il n'y a toujours pas la présence, je trouve, des hommes, des femmes politiques. Et cette coordination entre cette... représentantes qui sont le territoire du Mio, et quand même je sais que c'est beaucoup de fatigue parce qu'il n'y a pas la présence des politiques, parce que effectivement ils sont là qu'elles changent, qu'elles donnent du soutien, du vrai soutien. Bon, Angelina elle m'a dit nous sommes en période électorale, comme ci, comme ça, oui, je sais. Et, mais quand même, il y a des vis, il y a quelqu'un qui est pour remplacer. Elle m'a dit, il y a Valentin, il est OK, mais c'est vraiment, excuse-moi, vous n'avez pas écrit. OK, il y a Internet, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la chance d'avoir Internet. Moi, j'ai participé à les photos. Je suis une femme que j'étais sur la photo. Et j'ai décidé de faire les photos pour encourager les autres femmes, pas pour moi. Parce que moi, j'ai ma force, j'ai ma dignité et je crois dans ma vie. Et je me sens, comment dire, que j'ai de la chance. J'ai de la chance parce que maintenant je parle avec vous. Et je vous dis que tout ensemble, nous devons faire en sorte que les hommes et les femmes politiques, ils doivent être présents. Parce que votre travail, ce n'est pas quelque chose qui doit être jeté à la poubelle. Ou que vous devez, comment dire, nous devons parler entre nous. Oui, OK, nous avons bien parlé. Mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Quel est le projet? Qu'est-ce que nous avons? Quelles sont les propositions? Mais je veux voir les propositions. Non, qu'est-ce qu'ils font? Comment dire, l'impegno. Non, en italien, ça s'appelle impegno.
L'engagement.
Quel est l'engagement? OK, je veux voir ça. Bon, c'est tout. Merci beaucoup à tout le monde.
Merci pour votre intervention parce que en 6 ans de mandat, c'est la première fois qu'on me bouscule sur le sujet. Je vous le dis clairement, on a eu d'innombrables réunions au cours desquelles on parle de ces sujets. C'est la première fois qu'on m'interpelle directement sur le truc. Ces espaces d'expression, ils sont là justement pour que ce type d'opinion, il puisse s'exprimer. Le mois autour des droits des femmes, il est aussi utile pour ça. Sur les solutions, il y a des solutions que vous avez certainement évoquées ce matin avec Madame la maire, qui ont été mises en place. Qui reste à mettre en place sur la question des mobilités, notamment de cette dame qui a du mal à amener son enfant au centre de loisirs. Il y a eu, à travers le budget participatif mis à voie, un projet qui a été porté, mais qui effectivement est limité aux 2 mois d'été. Il y a aussi, sur les questions des mobilités, la gratuité des transports en commun qui a été mise en place en septembre, qui permet à certaines familles monoparentales, personnes en situation de précarité, de prendre le réseau de transport urbain qui est ce qu'il est. Effectivement, il manque des lignes de transport dans certains quartiers sur les hauteurs de Millau, mais qui permet à pas mal d'utilisateurs, en plus depuis septembre, de prendre le bus, d'avoir ce réflexe-là. Après, il reste effectivement beaucoup de choses à faire. Ce qui est difficile à entendre sur beaucoup de sujets, j'en parlais sur l'hébergement d'urgence, l'autre jour à Trait d'Union qui a parfois une difficulté financière sur certaines actions qu'il porte, le planning familial aussi, dernièrement ils ont fait des appels à financement pour pouvoir accompagner les personnes qu'ils accompagnent au quotidien. Beaucoup d'associations nous en parlent à nous, la mairie, parce qu'on est l'interlocuteur de proximité. Moi, je suis pour qu'on prenne notre part sur ces sujets, sur des situations d'extrême urgence, d'enfants à la rue, de femmes à la rue. Mais notre rôle aussi, il est de relayer ce message à d'autres interlocuteurs, parce que je suis très mal à l'aise avec le fait qu'on prenne notre part sur des sujets qui ne relèvent pas de la compétence de la mairie. Parce que quand tu prends en charge certaines compétences qui relèvent de la compétence de l'État, ben derrière l'État te dit, ben, vous savez le prendre en charge, ben on vous le laisse sans les moyens qui vont avec. Donc il y a aussi ce danger-là. Et sur la question des droits des femmes, de la lutte contre les violences faites aux femmes et puis aussi aux enfants, je sens parfois que l'État a cette tentation, alors que les besoins qui sont exprimés par les fédérations nationales, le fameux milliard dédié aux violences intrafamiliales, on ne le voit pas arriver, mais c'est à l'État de le débloquer. Donc notre rôle aussi en tant qu'élu, c'est un rôle militant. C'est la raison pour laquelle je suis présent, c'est la raison pour laquelle certains collègues le défendent dans d'autres sphères, mais je suis d'accord avec vous, ce soir ça aurait mérité qu'on soit un peu plus nombreux. Voilà. J'ai pas répondu à toutes vos questions, mais pour ma part, je fais ce que je peux. Voilà.